Donc nous commençons le premier cours d'Ancien Testament niveau 1. Alors ceux qui ont suivi le cours de propédeutique l'an dernier peuvent s'inscrire directement au niveau 2, je le rappelle comme je l'ai rappelé, pour le Nouveau Testament. Aujourd'hui nous allons voir comment s'est constitué cet ensemble de comment a été rassemblé cet ensemble de textes que nous appelons l'Ancien Testament, qui s'est constitué bien sûr sur une longue période historique. Auparavant, je voudrais rappeler que la Bible est un livre inspiré, parce qu'elle a Dieu comme auteur et qu'elle a été écrite sous la motion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie, cette inspiration? Les apôtres Pierre et Paul en parlent dans ces termes. Saint Paul dit en 2 Timothée 3, 15, 17 que toute écriture est divinement inspirée. Je cite le texte plus longuement, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et Saint-Pierre ajoutera, « C'est poussé par l'Esprit-Saint que les hommes ont parlé de la pierre... La... » Attendez. Oui, on parlait de la part de Dieu, pardon. Donc c'est en 2 Pierre 1, 20, 21. Je cite également plus longuement ces deux versets. « Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit-Saint que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. » Nous savons également que l'inspiration des Écritures repose sur le témoignage apostolique. Nous savons que Dieu se révèle à nous, bien sûr. Il se donne à connaître à nous par révélation et il se révèle à nous en parlant le langage des hommes. Et le Verbe de Dieu descend jusqu'à nous en devenant pleinement homme, sans jamais cesser d'être Dieu. Bien sûr, Dieu, en se révélant à nous, nous parle le langage des hommes, faute de quoi nous ne pourrions le comprendre. Alors ça veut dire que les Écritures sont donc la forme humaine de la parole de Dieu, comme le remarque fort justement le grand théologien orthodoxe Paul Evdokimov, qui dit « Dans leur unité, elles s'avèrent théandriques. » Et il ajoute « Quand l'homme écoute la parole de Dieu, il n'est jamais passif. Il y a toujours une réaction active, créatrice de sa part, dans sa réceptivité même. Certes, les auteurs des livres sacrés sont des auteurs prophètes, et si leur œuvre remonte à la saisie intuitive du message et relève de l'illumination charismatique, celle-ci, fidèle à son principe, sauvegarde pleinement toute la réalité humaine, ne la viole jamais. Tout prophète reçoit la mission de transmettre la parole reçue à la communauté ecclésiale, et les interprétations patristiques et liturgiques démontrent que si la révélation est donnée une fois pour toutes, elle n'est jamais close dans la richesse de son contenu et passe par la réceptivité créatrice de l'Église. » Et il ajoute quelque chose qui est particulièrement important. « Les Écritures sont la forme humaine de la parole divine et dans leur unité, elle s'avère théandrique. La parole de Dieu et la parole humaine est une séparation nestorienne. La parole de Dieu seule ou la parole humaine seule relève d'un monophysisme hérétique. Il est donc clair que cette parole, l'ensemble de cette parole, tout le contenu du livre que nous appelons la Bible, est un don de Dieu fait à l'Église. Cette parole qui ne vient pas de l'homme ni même de l'Église, mais qui est un don de Dieu fait à l'Église, mais dans laquelle l'homme garde toute sa place, de telle sorte que l'Écriture, parole de Dieu en langage d'homme, est une parole divino-humaine. Alors maintenant, après ce préliminaire, venons-en à voir comment s'est constitué cet ensemble, avant d'en venir au contenu même de ces livres, voyons comment s'est constitué cet ensemble, et pour ce qui nous occupe ce matin, cet ensemble que nous appelons l'Ancien Testament. C'est un processus qui, à la fois dans la synagogue et dans l'Église, n'a pas été mené de façon arbitraire, cela va sans dire. C'est un processus historique qui est long, dans lequel on a cherché à discerner, à découvrir la règle de la foi et de la vérité dans l'ensemble des livres qui circulaient. Parce que il y a une pluralité de textes, ce qui est normal, c'est une tradition vivante qui est portée d'âge en âge, ce qui n'exclut pas une pluralité de textes, mais encore fallait-il faire le tri entre cet ensemble de textes selon la règle de la foi et de la vérité et voir quels étaient vraiment les textes inspirés et ceux qui ne l'étaient pas, et donc constituer un canon des Écritures. Ce terme de canon, d'ailleurs, nous en trouvons une première acception dans le livre de la Genèse. Au chapitre 41, au verset 5, le terme est employé dans le contexte suivant, qui raconte le songe du Pharaon, et le terme à ce moment-là désigne la tige des sept épis de blé que Pharaon voit en songe. Il eut un second songe, voici sept épis gras et beaux, montèrent sur une même tige. C'est donc dans ce contexte que ce substantif est employé. On le trouve également chez le prophète Ézéchiel, ça désigne une canne, un roseau qui sert à mesurer. Chapitre 40, là aussi verset 5, et voici le mur extérieur tout autour du temple, dans la main de l'homme, une canne, un roseau, à mesurer de 6 coudées. À ma connaissance, et sauf erreur de ma part, on trouve 5 occurrences de ce terme « canné » dans la Bible hébraïque et qui désigne un instrument de mesure. Et dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, il est utile de noter que le terme « canon » et bien, lui aussi, est lié à la mesure, à la règle de conduite dont parle saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Je cite « Pour nous, nous n'irons pas nous glorifier hors de mesure, mais nous prendrons comme mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour mesure. » Autrement dit, le terme de canon, c'est la règle de la foi. Encore ce terme est employé dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6. Donc, chapitre 6, verset 16, reportez-vous directement à ce verset dans l'Épître aux Galates. Le terme est repris 15 fois dans les écrits du Nouveau Testament, et on le trouvera également chez les pères apostoliques pour désigner la règle de la foi. Donc c'est imposé à la fois pour la tradition hébraïque et pour la tradition chrétienne, la nécessité de fixer en un canon les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour l'Église chrétienne. Mais là, c'est l'Ancien Testament qui nous occupe. Donc, voyons comment s'est constitué, là aussi, sur une longue période, ce canon de l'Ancien Testament dont a hérité l'Église chrétienne. Mais le canon chrétien lui-même de l'Ancien Testament a des particularités. Il y a des textes qui figurent dans le canon de l'Ancien Testament chrétien qui ne figurent pas dans le canon de la synagogue. Mais il faut bien remonter à la période antérieure au christianisme si on veut parler de la formation du canon de l'Ancien Testament. Alors, nous savons que la constitution de la Torah écrite est intimement liée à l'histoire d'Israël. Chaque étape historique, eh bien, apportant sa contribution à sa formation, à ce canon, et à son développement. Et on peut dire, pour commencer, parce qu'après on viendra au contenu des livres eux-mêmes, mais on peut dire pour commencer que de cette histoire assez complexe, il faut le dire, va émerger trois catégories d'écrits, trois groupes d'écrits. D'abord le Pentateuque, la Torah, la loi, étant entendu que le terme Torah ne se réduit pas à une notion juridique de loi, mais signifie également instruction, voie, loi, ça englobe cette pluralité de termes dans la réalité finalement. Ensuite, les prophètes, les grands et les petits prophètes, les premiers prophètes et les deuxièmes prophètes, selon des vocables qui sont utilisés par la tradition, et ensuite les écrits. Alors, bon, la Torah, c'est ce que nous appelons le Pentateuque, avec le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Les prophètes, donc il y a bien sûr, on va y revenir hein, sur la liste, les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les autres prophètes, les écrits désignent une catégorie de textes que souvent, par exemple dans le Nouveau Testament, quand on parle des psaumes, on désigne par métonymie l'ensemble des autres écrits, Ketuvim. Cette tripartition est propre à la Bible hébraïque, à l'Ancien Testament hébreu. On peut voir, d'ailleurs, dans le premier ensemble de livres, c'est-à-dire dans le Pentateuque, que la tradition appelle aussi les cinq livres de Moïse, on peut voir que dès l'Exode, que la loi est présentée comme un texte normatif du peuple d'Israël, reçu de Dieu directement. Et on est réduit à formuler des hypothèses quant à la fixation définitive de ces livres, bien sûr, des hypothèses qui peuvent être intéressantes, mais qui peuvent être aussi infirmées au fur et à mesure que progresse la connaissance historique dans ce domaine. Selon certaines hypothèses, la Torah aurait été déclarée close vers 450-400 avant Jésus-Christ. L'ensemble de textes qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, l'aurait été entre 300 et 200, voire même un peu plus tard, si l'on en croit le deuxième livre des Maccabées, chapitre 15, verset 9, et celui des Ketuvim, donc des autres écrits, vers la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, encore que cette hypothèse pour ce dernier groupe de livres est fortement contestée, parce que il semble bien qu'au temps même où le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, que la liste des livres qui forment les autres écrits, les Ketuvim, était loin d'être close en ce temps-là. Bon, mais considérons que ces dates sont des points de repère qui indiquent la clôture du canon, avec la réserve que je fais pour la troisième catégorie d'écrits. Mais la tripartition de ces écrits, la loi, les prophètes et les autres écrits, ça, cette tripartition existe bien dans les faits, puisque si on se reporte à un écrit qui ne figure pas dans le canon hébraïque, il n'a pas été retenu au motif qu'il était connu au moment de la fixation de ce canon, la fixation définitive de ce canon. Il n'était connu que dans sa version grecque, mais depuis, on a retrouvé à la fois à Qumran et dans la forteresse de Masada une version écrite en hébreu. Donc il s'agit là de la sagesse de Jésus ben Sirach, c'est ce qu'on nomme ordinairement le Siracide, écrit donc avant le Christ, bien sûr, et qui parle de cette tripartition. Et il dit « Beaucoup de choses nous ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis », allusion aux autres écrits. « C'est pourquoi mon grand-père Jésus, qui s'étant adonné par-dessus tout à la lecture de la loi des prophètes et des autres livres de nos pères. » C'est mentionné dans le prologue du Siracide qui figure dans le canon de la Septante. Donc, cette tripartition des écrits de la Bible hébraïque est bien attestée. Longtemps même avant la fixation du canon par les rabbins, à partir du synode de Yabné, lequel synode fait suite à la destruction du temple en 70. Et rappelez-vous d'ailleurs que lorsque le Christ demande aux disciples d'étudier ce qui est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes, c'est bien à cette tripartition qu'il fait référence, puisque les psaumes, là, désignent par métonymie l'ensemble des autres écrits, autrement dit les Ketuvim. Et donc, c'est une attestation supplémentaire que cette tripartition des écrits dans la Bible hébraïque remonte loin dans le temps. Alors maintenant, combien y a-t-il de livres qui composent ce canon de l'Ancien Testament hébraïque? Alors, il y a deux. On va voir successivement que ça varie en fonction de la manière de compter les livres et aussi selon le canon long des Septante. Disons, pour faire simple, que le canon hébraïque, le canon de la synagogue, est le canon court, et que le canon des Septante est le canon long. On va voir pourquoi. Mais en tout état de cause, l'ensemble des livres de la Bible hébraïque, ou canon court, a été unanimement reçu par toutes les églises chrétiennes. Alors qu'il y a eu des variations quant au canon des Septante, il n'y a pas unanimité dans l'ensemble des églises quant à la réception des autres écrits qui figurent dans le canon des Septante. Alors, selon Flavius Joseph, dans le livre des Antiquités juives, le canon biblique comporte 22 livres, selon qu'on regroupe les livres, et avec cette tripartition, les livres de Moïse, le Pentateuque, les livres prophétiques et les autres écrits. Flavius Joseph, par exemple, compte ensemble les livres des Juges et de Ruth, et Jérémie et les Lamentations de Jérémie. Donc le corpus se compose comme tel. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ça c'est le Pentateuque, c'est la Torah proprement dite. Les prophètes, avec les premiers prophètes, ce qu'on appelle les Nevi'im Rishonim, Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Les derniers prophètes, les Nevi'im Aaronim, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Adjé, Zacharie, Malachi. Et les autres écrits, les Ketuvim, Psaumes, Proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Coëlette, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques. Soit 24 livres, 22 livres selon le compute de Flavius Joseph, ici 24 livres, ou 39 livres en comptant chacun des 12 petits prophètes. On aboutit à un total de 39 livres. Ensemble, donc, qui, je le rappelle, figure unanimement dans les Bibles juives et chrétiennes. Alors maintenant, il faut voir que si ces 39 livres sont communs à toutes les Bibles, la structure de l'Ancien Testament chrétien, en cours de constitution, d'ailleurs dans la même période que celle de la constitution du canon hébraïque, eh bien cette structure est différente. D'abord, il faut se souvenir que l'Église naissante hérite du judaïsme une série de livres sacrés qui sont connus du Seigneur et des apôtres, des évangélistes qui les citent souvent, soit mot à mot, soit assez librement. Donc, livres sacrés dont la liste n'est pas close, je le rappelle, et qui jouissent de différents degrés d'autorité, ça c'est important à retenir, en particulier en fonction de l'usage qui en est fait dans la prière publique et dans la prière, donc la prière liturgique. Ça c'est un critère important quant à l'autorité de ces livres. Mais la raison principale de la différence de structure du corpus en voie de fixation canonique et que, dès le départ, la Bible chrétienne est la Bible des Septante. Vous avez tous entendu parler de la Bible des Septante. Cette Bible, c'est celle qui a été traduite en grec à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on l'appelle aussi la Bible d'Alexandrie, car tel est le lieu de sa traduction. Et les textes de la Bible des Septante, d'ailleurs, sont souvent cités dans les textes de Qumran, à côté aussi de textes hébreux qui nous renvoient à un texte proto-massorétique. Cette Bible chrétienne, qui est elle-même en formation, renvoie à la structure des Septante, qui, elle, n'est plus tripartite, mais quadripartite. À savoir le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et sapientiaux et les livres prophétiques. Donc, comme je le disais à l'instant, cette Bible des Septante, la traduction a commencé au IIIe siècle avant le Christ, à la demande du roi Ptolémée, qui avait en grande considération la religion des Hébreux, qui avait une grande communauté juive, donc en Égypte, hein, Philon d'Alexandrie dit, cite un chiffre, le chiffre de 1 million de juifs en Égypte, dont 200 000 dans la seule ville d'Alexandrie, lesquels juifs ne parlent plus l'hébreu. L'hébreu est alors à ce moment-là une langue purement liturgique, mais n'est plus parlée par les gens de cette communauté, et se fait sentir le besoin d'avoir une traduction des livres de la Bible hébraïque en langue grecque. Je ne vais pas citer toute l'histoire relative à cette entreprise. On la trouve chez le grand docteur juif Philon d'Alexandrie, l'un des principaux représentants de cette communauté en ce temps-là, donc au 1er siècle de notre ère, qui en parle abondamment, qui rend compte de cette histoire de la traduction de la langue hébraïque à la langue grecque, de la Torah, puis des autres livres de la Bible. Reportez-vous pour cela à la vie de Moïse, qui est parue aux éditions du Cerf. Vie de Moïse, qui est un écrit très important de Philon d'Alexandrie. Disons simplement que le grand prêtre Éléazar avait envoyé, donc à la demande du roi Ptolémée d'Égypte, Ptolémée Philadelphe, avait envoyé 70 ou 72 savants, et qu'ils ont entrepris la traduction de la Torah dans l'île en face du phare de Pharos, et la tradition rapporte que leur traduction correspondait point pour point, leur traduction à chacun des 70 ou 72 traducteurs correspondait en tout point lorsqu'elles ont été confrontées l'une à l'autre. Ce qui veut dire que, au-delà de cette histoire qui est rapportée par Philon d'Alexandrie au 1er siècle, la traduction des Septante est considérée comme un texte inspiré. Ce n'est pas une simple traduction, mais c'est aussi un texte inspiré. Selon ce que j'ai dit de l'inspiration des livres bibliques en commençant mon propos tout à l'heure. Alors, cette traduction des Septante a été en l'honneur chez les Juifs de la dispersion, à Alexandrie, bien sûr, mais aussi dans les communautés juives qui s'étaient répandues peu à peu après la conquête du royaume du Nord par les Assyriens à partir de 722 après Jésus-Christ. Ces communautés répandues dans tout le bassin méditerranéen étaient nombreuses, et après la conquête d'Alexandre, la langue grecque est devenue la langue vernaculaire utilisée communément dans tout le bassin méditerranéen, de telle sorte que la traduction des Septante était connue ici ou là, et on s'en servait parce que l'hébreu était très largement devenu une langue liturgique qui n'était plus utilisée comme langue courante. Mais, bien sûr, cette traduction, pour faire vite, cette traduction des Septante va faire l'objet d'une méfiance grandissante de la part du rabbinat en Israël, au point que les rabbins, donc après la destruction du temple, c'est-à-dire après que le judaïsme se soit recentré sur la tradition, l'unique tradition issue des pharisiens. Il y aura une méfiance grandissante pour ce texte grec qui donnera lieu à des révisions à la demande des rabbins. Telles sont celles de Théodosion, d'Aquila, de Symmaque, trois révisions qui sont des révisions juives et non chrétiennes. Et il faut dire par exemple que la révision d'Aquila de la Septante fut largement utilisée dans le judaïsme de la dispersion, jusqu'au temps même de l'empereur Justinien, comme en témoigne la nouvelle 146 de l'année 553. Donc, méfiance grandissante, parce que tout ça se fait dans un contexte polémique entre la synagogue et l'Église primitive. Méfiance grandissante, rejet, puis rejet de la part du judaïsme dans les temps qui suivent la destruction du temple. Mais en revanche, cette Bible des Septante est adoptée et la Bible reçue comme parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance par l'Église primitive et par les pères grecs qui y verront comme une préparation évangélique, comme un point de passage au Nouveau Testament et qui forme avec celui-ci le texte de référence pour la plupart des mots, des termes qui expriment la foi chrétienne. Il y a tout, dans le vocabulaire théologique des Septante, il y a tout le vocabulaire de la foi chrétienne à venir. Il y a donc une continuité linguistique qui est incontestable entre la Septante et le Nouveau Testament, et même les œuvres de la patristique grecque. Et jusqu'à nos jours, aujourd'hui encore, dans l'Église orthodoxe, c'est le texte de la Septante qui est reçu comme normatif quant à l'Ancien Testament. Ce n'exclut pas, bien sûr, qu'on puisse étudier aussi le texte hébreu, bien sûr, mais le texte normatif dans l'Église orthodoxe, c'est le texte des Septante. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans la latinité chrétienne, puisque à partir du 5e siècle, avec la traduction de saint Jérôme, qu'on appelle la Vulgate, traduction faite à partir d'un texte hébreu qui n'est pas exactement le texte de la Massora de la synagogue, mais c'est ce texte qui s'imposera dans la latinité chrétienne pour l'Ancien Testament, avec une réserve notable tout de même, c'est que le psautier des Septante restera, dans sa traduction latine bien sûr, restera normatif jusqu'au XXe siècle. Donc il faut remarquer que la Septante est comme nombre de manuscrits hébreux anciens découverts à Qumran, témoin de textes hébreux notablement différents du texte hébreu massorétique, sans qu'il y ait un monde entre tous ces textes, bien sûr, mais il y a des variantes. Ce qui veut dire que les Septante ont traduit à partir d'un texte hébreu qui n'était pas celui de la Massora. C'est dû au fait qu'il y a, puisqu'on est dans le cadre d'une tradition vivante qui repose pour une grande part sur l'oralité, qu'il y a une pluralité de textes. C'est une tradition qui vit, et donc il y a une pluralité de textes. Mais le texte qui a servi à la traduction des Septante est notablement plus ancien que celui qui d'abord proto-massorétique, puis massorétique ensuite, a servi à la fixation définitive du texte hébreu par la synagogue. Il faut noter que, à quelques exceptions près, les révisions du texte de la Septante, donc celle de Théodotion d'Aquila, de Symmac, les révisions juives du texte de la Septante, à quelques exceptions près, ont été que très rarement adoptées en milieu chrétien. Alors, nous avons eu, par le travail d'Origène, une mise en colonne, donc, du texte hébreu, des révisions de la Septante, et d'une vocalisation en langue grecque du texte hébreu, d'où le nom d'exaple. Malheureusement, ce texte qui est une œuvre gigantesque, il est aujourd'hui perdu, bien qu'il y ait quelques citations dans l'histoire ecclésiastique que nous a donné Eusèbe de Césarée, Eusèbe l'évêque de Césarée. Mais malheureusement, pour l'essentiel, cette édition des exalples est pratiquement perdue. Ce travail d'Origène est pratiquement perdu. Il y a une autre édition de la Septante en milieu chrétien qui est attribuée au prêtre et martyr Lucien d'Antioche, qui est donc mort au IVe siècle. Bon, on ne sait pas trop quel fut son rôle, mais il est sûr que pour plusieurs livres de la Bible, les manuscrits transmettent le type attesté par les pères, transmettent le type de texte attesté par les pères antiochiens, Jean Chrysostome et Théodore, et caractérisé entre autres par une certaine forme de purisme grammatical. Ce texte antiochien conserve une forme très ancienne de la Septante, car ses particularités peuvent être attestées déjà chez Flavius Joseph et dans la traduction latine de la Septante qu'on appelle la Vetus Latina. Traduction latine qui précède et de loin la traduction de Jérôme au Ve siècle, faite, elle, sur le texte hébreu. Signalons encore le nom d'un évêque égyptien, Ézéchios, qui est donné pour auteur d'une édition de la Septante et du Nouveau Testament grec. Donc, ainsi, à partir de ces textes d'origine juive, les centres chrétiens d'Antioche et de Césarée firent des éditions qui se répandirent assez vite dans le monde chrétien. L'empereur Constantin lui-même, qui est mort en 337, si je ne fais pas d'erreur, eh bien, l'empereur Constantin demanda à Eusèbe de Césarée, mort lui en 339, de fournir 50 Bibles aux églises de sa nouvelle capitale. Et Constant, autre empereur, mort en 350, demanda le même service à Athanase d'Alexandrie. Donc, la traduction grecque de l'Ancien Testament, traduction des Septante, il faut le dire, a servi à la plupart des auteurs du Nouveau Testament et aux pères de l'Église et aux premiers traducteurs dans d'autres langues, en syriaque, en copte égyptien, en latin. Et donc elle a joué un rôle fondamental dès les origines de l'Église, où, je le rappelle, elle est reçue comme un texte inspiré et non comme une simple traduction. Mais c'était déjà le cas en milieu juif alexandrin avec Philon. Philon reçoit la Septante comme un texte inspiré et non comme une simple traduction. Alors, le christianisme naissant hérite donc de la Septante pour son Ancien Testament. Certains livres, si l'on compare par exemple le texte massorétique, donc la fixation définitive du texte hébreu par, selon un long processus historique également, mais avec une grande fidélité au texte proto-massorétique, parce que là on a des preuves historiques par les découvertes des manuscrits de Qumran. On peut confronter par exemple l'Isaïe hébreu tel que il figure dans l'un des rouleaux de Qumran et le texte d'Isaïe dans la Bible hébraïque d'aujourd'hui, et voir que le texte massorétique, qui est beaucoup plus tardif, est très fidèle à ce texte proto-massorétique. Donc il y a peu de différence dans la Septante, par exemple, en ce qui concerne le Pentateuque. Les livres du Pentateuque de la Septante et les livres du Pentateuque de la Bible hébraïque sont somme toute assez proches, mais d'autres diffèrent. Il y a des variantes chez les prophètes, par exemple. Il y a des variantes, ainsi que dans les psaumes aussi. Bon. Et évidemment, les deux canons là divergent quand il s'agit des autres écrits, c'est-à-dire que à Alexandrie, on a traduit également le Siracide, la Sagesse, Tobit, les lettres de Jérémie en grec. Tout ça, c'est des livres qui ne figurent pas dans le canon hébraïque. Donc, je résume cet aspect des choses. Le canon des Septante, qui est le canon chrétien, la Bible des Septante est une Bible juive traduite en grec par des savants juifs, mais cette Bible a été adoptée par l'Église naissante. Donc, ce canon de l'Ancien Testament chrétien, il se répartit en quatre groupes de textes. Le Pentateuque, ça c'est les cinq livres que la tradition appelle les cinq livres de Moïse, et c'est semblable, donc c'est le même groupe de livres que dans la Bible hébraïque. Les livres historiques, là c'est Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 règnes, 3 et 4 règnes, ça correspond, 1 et 2 règnes correspondent à 1 et 2 Samuel de la Bible hébraïque, 3 et 4 règnes correspondent à 1 et 2 rois de la Bible hébraïque. Je dis cela parce que dans nos traductions françaises, elles sont toutes fondées sur, à une exception près, elles sont toutes fondées sur le canon hébraïque, donc il faut connaître la correspondance entre les désignations du canon des Septante et celle du canon hébraïque. 1 et 2 paralipomène. Paralipomène, c'est les chroniques, 1 et 2 chroniques dans la Bible hébraïque. Esdras, avec 1, 2, 3 et 4 Esdras. Néhémie, Tobie, Judith, Esther, avec un supplément grec. 1, 2, 3 et 4 Maccabée, donc c'est des livres qui ne figurent pas dans le canon hébraïque. Ça c'est pour les livres historiques. Les livres poétiques et sapientiaux, donc psaumes, les 150 psaumes, plus le psaume 151, lequel n'est jamais lu à l'Église, je le rappelle, Hein. La prière de Manassé, la prière du roi Manassé, le livre des Proverbes, le livre de Job, le Cantique des Cantiques, Qohélète, Sagesse et Siracide, le livre de Jésus ben Sira, Sagesse de Jésus ben Sira. Et enfin, les livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, avec le Daniel grec également, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Donc, c'est ainsi qu'est constitué l'Ancien Testament des Septante, donc qui devient l'Ancien Testament, enfin la Bible des Septante, donc qui regroupe tout cet ensemble de livres, qui devient pour l'Église donc l'Ancien Testament. L'Église voit dans ce texte de nombreux passages dans la loi, les prophètes et les écrits, en particulier dans les psaumes, sous-catégorie de ce qu'on nomme les écrits, qui annoncent le Christ ainsi que les réalités chrétiennes. Dans le contexte polémique entre l'Église et la synagogue sur la formation de ce canon, Justin, philosophe et martyr, nous dit dans le dialogue avec Tryphon, où il énumère un grand nombre de ces passages qui sont au cœur de la controverse entre juifs et chrétiens. Et ce que l'on peut retirer de ce dialogue, c'est que l'hypothèse que les rabbins de Yabné aient voulu éliminer une version grecque que la jeune Église chrétienne avait adoptée, cette hypothèse est fondée. Évidemment, dans le cadre de cette polémique également, progressivement, lors de la fixation définitive du canon de la synagogue, du canon hébraïque, seront éliminés les textes qui sont connus en langue grecque. Ne seront retenus que ceux qui sont connus en langue hébraïque. Et ça, évidemment, on ne peut pas du tout exclure que ce soit une conséquence de la polémique entre la synagogue et l'Église. Les rabbins n'ont pas voulu de ces textes qui étaient connus qu'en langue grecque à l'époque, comme celui du Siracide, par exemple, bien que le Siracide ait joué un rôle dans la tradition juive. Cette élimination du texte grec des Septante en milieu juif a été, bien sûr, progressive, parce que d'abord, cette traduction avait été accueillie favorablement, mais progressivement, elle va tomber dans l'oubli et on ne va plus du tout l'utiliser. Il y a trois citations qui illustrent, en quelque sorte, le divorce entre le judaïsme et la Septante. Je citerai d'abord le Sefer Torah, un texte du IIIe siècle, qui dit « Les Écritures ne doivent pas être écrites en langue grecque. 70 anciens écrivirent la Torah pour le roi Ptolémée en grec, et ce jour fut aussi mauvais pour Israël que le jour où le veau d'or fut fabriqué, puisque la Torah ne pouvait pas être traduite adéquatement. » Donc là, vraiment, on est à l'opposé de ce que Philon appelle la fête, la panégyrie annuelle qui est célébrée à Alexandrie en l'honneur de la Bible des Septante et de sa traduction de l'hébreu au grec. Et puis, le Sefer Torah dit que ce ne sont même pas 70 anciens qui ont traduit, mais 5. Un autre écrit dit que la loi grecque, la loi fut traduite en grec, pardon, sous le roi Ptolémée, donc là il n'y a rien à dire, mais ajoute, en châtiment, les ténèbres couvrirent le monde pendant 30 jours. Voilà. Donc c'est un jour noir, selon la tradition rabbinique, c'est un jour tout à fait noir que celui de la traduction des Septante. Pour finir sur ce point, je dirais que, à côté du rejet des rabbins et suite aux révisions d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion, quand la Septante est devenue l'Ancien Testament de l'Église chrétienne, on lui connaissait une diversité de formes. Donc, dès le IIIe siècle et au IVe siècle, les chrétiens se sont efforcés de mettre de l'ordre dans ce qu'il faut bien appeler cette confusion textuelle, et retenir pour chaque livre les exemplaires qu'ils estiment authentiques. Donc, bien sûr, ils contribuèrent au remaniement du texte, eux aussi. Et on parlera à leur propos de recension, les plus importantes étant celles d'Origène et de Lucien d'Antioche, comme je l'ai dit. On ne peut pas cacher de ce fait que une telle création continuée, si on peut utiliser ce terme, rend difficile l'identification certaine de la vieille Septante. Et il faut considérer, s'agissant des sources manuscrites, avec soin les témoins, directs ou indirects, pour établir un texte critique qui paraît le plus proche du texte de la vieille Septante. À l'heure actuelle, hein, il y a des travaux dans ce domaine. Alors, nous l'avons vu, l'Église n'a pas reçu de la synagogue, de la tradition hébraïque, un canon de l'Ancien Testament déjà définitivement fixé. C'était le cas pour donc la loi et les prophètes, ça ne l'était pas pour les autres écrits, Ketuvim. Donc, les pères de l'Église ont posé le problème du canon et ont dû réaliser un grand effort d'éclaircissement et de fixation des livres sacrés de l'Ancien Testament. Il y a eu tout un travail de discernement sous la guidance de l'Esprit-Saint et réclamant également l'unanimité des Églises pour fixer ce canon des livres sacrés de l'Ancien Testament. On sait par exemple que les pères apostoliques citent l'Ancien Testament selon la version des Septante. On sait même déjà que dans le Nouveau Testament, la plupart des citations du Nouveau Testament sont sorties du texte de la Septante. L'écrasante majorité des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont issues du texte des Septante. Et par ailleurs, les premiers pères sont familiers de textes qu'on appelle deutéro-canoniques, en grec « anagignoskomena », qui signifie des livres qui ont une autorité moindre que les autres livres du canon, mais qui sont néanmoins utiles à la lecture, et en particulier à la lecture pour les catéchumènes, ceux qui vont recevoir le Saint-Baptême. Dans ce discernement, je veux dire, des pères et de l'Église des premiers siècles, on ne confond pas, bien sûr, ces textes deutérocanoniques, ces anagignoscomena, avec les apocryphes. Bien sûr, ça, les apocryphes sont des livres qui n'ont aucune autorité et qui n'entrent pas dans le canon. Par exemple, Origène, au IIIe siècle, il sait très bien que quelques livres utilisés comme écriture existent dans l'Église, mais qu'ils n'appartiennent pas au canon juif. Donc ce sont ces anagignoscomena. Il le sait parfaitement. Alors, ça l'amènera, et à sa suite d'autres pères, à distinguer deux groupes de livres. Le premier groupe, les livres du canon hébraïque, donc que j'ai appelé tout à l'heure le canon court, et le deuxième groupe, ceux des anagignoscomena ou livres deutéro-canoniques, du second canon, deutéro-canonique, c'est ça que ça signifie. Et puis il y a un troisième groupe qui sera celui des livres apocryphes, donc rejetés. Maintenant, terminons avec les critères qui ont servi à l'Église pour fixer le canon, son canon de l'Ancien Testament. Premier critère, la Septante avec ses livres proto- et deutéro-canoniques dont la liste varie. J'en ai parlé tout à l'heure. L'usage public et officiel de la Bible grecque a guidé l'Église dans le discernement du canon vétérotestamentaire. Ça, c'est très important. Second critère, c'est l'usage dans le culte, dans la liturgie de la synagogue. On lisait sur un cycle de 3 ans la Torah, les prophètes, et avec le temps, la lecture s'est étendue à d'autres écrits. L'usage cultuel d'un livre, donc, signifie bien sûr la reconnaissance de son caractère sacré. Et l'Église primitive a utilisé la Bible juive, dans la version des Septante, dans le culte dominical lui-même. Il y avait une lecture de la prophétie. Aujourd'hui, ça a disparu, par exemple, dans la divine liturgie, mais c'est assez tardif, mais il y avait une première lecture dans la loi et les prophètes, avant la lecture de l'Épître et celle du Saint-Évangile qui suit. Donc, l'usage dans le culte est un critère fondamental pour l'entrée d'un livre dans le canon des livres bibliques. Ensuite, est restée ouverte la question de la canonicité de l'ensemble des anagignoscomena. Cette question est restée longtemps débattue dans la période patristique. Et même aujourd'hui, le comput des anagignoscomena ne fait pas unanimité dans l'ensemble des églises orthodoxes. Elles n'ont pas toutes le même nombre d'anagignoscomena. Et en tout cas, ces livres ne sont pas lus lors du culte public de l'Église, donc dans la période ancienne. Et ça fait que la question de leur canonicité est restée longtemps débattue. Troisième et dernier critère, l'usage dans les écrits du Nouveau Testament. Tous les écrits de l'Ancien Testament ne sont pas cités dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais ce n'est pas du tout parce qu'ils ne sont pas expressément cités qu'on peut en déduire qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le Nouveau Testament. Étant donné que tout l'Ancien Testament, et spécialement la prophétie, sont lus en fonction de la personne du Christ, il ne pouvait en être autrement. Et je pense que cela a dû compter grandement dans le discernement du canon vétérotestamentaire. Je terminerai en disant que l'Ancien Testament, selon donc la version des Septante, est cité plus de 350 fois dans l'ensemble du Nouveau Testament et plus de 300 fois selon le texte des Septante. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce présent cours. Je terminerai cette partie la prochaine fois avec les listes de textes qui sont retenus par l'Église orthodoxe. Et nous verrons que la question du nombre des anagnoskomena reste ouverte, même jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas unanimité des pères sur cette question, pas plus que... Il y a unanimité entre les églises. Certaines églises ont retenu un certain nombre de ces textes deutérocanoniques, d'autres ont des listes plus restrictives. Mais ce qui importera de citer, c'est que, à partir du IVe siècle, nous avons des listes assez précises, fournies par exemple par Méliton de Sardes, par Athanase d'Alexandrie, par Cyrille de Jérusalem, par Épiphane de Salamine et par Grégoire le théologien, quant aux livres qui composent pour l'essentiel le canon chrétien de l'Ancien Testament. Voilà, donc le prochain cours aura lieu au mois de décembre pour le niveau 1, le 21 décembre pour le niveau 1. Merci de votre attention.